Merci beaucoup, merci Alain Supiot de m'avoir convié ici pour ces gentilles paroles. Je vous remercie également de me donner l'occasion, mais finalement, à travers moi, disons, de donner la parole à ces entreprises un peu particulières de l'économie sociale et solidaire, puisque effectivement, il me semble que elles constituent une originalité. Alors, elles ont évidemment toujours été une originalité dans le paysage, mais si elles ont suscité l'intérêt des juristes et au-delà, à la charnière des 19e et 20e siècles, il faut bien dire que l'intérêt théorique qui leur est porté s'est très largement émoussé, même si cet intérêt, enfin, ou ce désintérêt intellectuel s'est compensé ces dernières années par un intérêt médiatique, mais ce n'est pas exactement la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travaux en économie sociale et solidaire, ça veut dire qu'il y a peu de communication entre ces travaux et les travaux qui portent sur l'entreprise classique, unitaire, comme vous la déplorez. Et donc l'enjeu ici est d'essayer de déterminer ce que peuvent apporter ces entreprises de l'économie sociale et solidaire au droit de l'entreprise. Je ne vais évidemment pas refaire ni l'histoire ni la définition de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire. Je préciserai simplement à titre liminaire que leur définition est assez particulière puisque en réalité est traditionnellement une entreprise de l'économie sociale et solidaire une entreprise qui appartient au secteur de l'économie sociale et solidaire. Or, le secteur de l'économie sociale et solidaire se définit lui-même par la nature des entreprises qu'il compose. C'est-à-dire que l'économie sociale et solidaire est définie, au moins en droit français, comme... Alors, il n'y a pas de définition officielle, elle se détermine à travers des compétences ministérielles ou autres, comme, en gros, la conjonction des associations ayant une activité économique, des coopératives, des mutuelles, et, à titre plus accessoire et discuté, des fondations. Être une entreprise de l'économie sociale et solidaire, eh bien, c'est simplement relever, finalement, de l'un de ces statuts. Alors, on verra tout à l'heure que c'est une situation qui est en cours d'évolution. Ces entreprises qui sont nées, disons, au XIXe siècle, mais qui se sont enrichies par vagues successives jusqu'à aujourd'hui, ces entreprises ont développé des systèmes, des principes originaux qui sont relativement balisés. Et je ne ferai que rappeler la rémunération limitée du capital, la gouvernance démocratique, l'intérêt pour la communauté. Et on pourrait en ajouter d'autres, bien entendu, la propriété commune pour l'essentiel. Mais donc je ne m'y arrête pas, même si j'y reviendrai évidemment tout au long de l'exposé, mais je n'en fais pas d'exposé synthétique. Il me semble que si on regarde l'apport que ces entreprises peuvent faire au droit de l'entreprise dans son ensemble, eh bien, cet apport est double. D'un côté, on peut trouver dans l'originalité de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire des solutions, des mécanismes, des raisonnements qui, par leur originalité et leur caractère quelquefois exotique, peuvent servir d'inspiration pour un droit de l'entreprise. Et puis, parallèlement, il me semble que la confrontation ces entreprises de l'économie sociale et solidaire avec les principes fondamentaux du droit des affaires, disons de manière générale, les frictions que cette confrontation entraîne sont elles-mêmes éclairantes de ce droit de l'entreprise et, à ce titre, sont susceptibles, là encore, de nourrir le droit de l'entreprise lui-même en lui posant des questions qu'il ne se pose pas toujours autrement. Donc, deux points. D'un côté, une source d'inspiration directe, et puis, de l'autre côté, une source d'inspiration indirecte, ou en tout cas, au moins, une source de réflexion. Tout d'abord, donc, au titre de l'inspiration directe, il me semble qu'on peut envisager les choses de manière graduelle, selon qu'on s'attache à des solutions, spécifiques au sein de l'économie sociale et solidaire, que le droit de l'entreprise peut piocher des mécanismes qui existent ou des réflexions qui sont menées dans ce droit de l'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Mais il est également possible d'avoir un regard plus ambitieux et de rechercher dans les fondements même de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire et dans la remise en cause que certains suggèrent du modèle dominant, une source d'inspiration pour une reconstruction. Et j'ai découvert avec bonheur ce matin que des échos étaient tout à fait directement envisageables quand on commence à repenser l'entreprise sous forme de commons. Tout d'abord, l'entreprise sociale et solidaire, prise comme une boîte à outils. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur ce terrain, je voudrais juste prendre rapidement deux exemples qui montrent comment la discussion menée au sein de l'économie sociale et solidaire peut nourrir des débats qui existent par ailleurs dans le droit de l'entreprise de manière générale. C'est le cas tout d'abord pour la responsabilité sociale et environnementale, ou responsabilité sociale de l'entreprise, ou sociétale, peu importe. Cette question de la RSE soulève ou pose des problèmes épineux pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire qui, d'un côté, détestent la RSE parce que la RSE risque de montrer que certaines entreprises classiques, capitalistes, aurait dit Jeantin, sont finalement meilleures en RSE que les entreprises de l'économie sociale et solidaire, ce qui serait un peu problématique. Et de ce fait, les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont deux types de réponses qui, à mon sens, sont l'une et l'autre profitables. D'un côté, c'est de dire qu'il y a tout de même une différence fondamentale entre la RSE et les entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est que le statut des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est du droit dur, et ce n'est pas de la soft law comme la RSE, ce qui fait que les incitations qui peuvent être faites en matière de RSE aux entreprises classiques, capitalistes, sont des obligations pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire du fait de leur statut, ce qui offre évidemment des garanties accrues. Et on a là évidemment une voie possible pour un durcissement de la soft law qui peut être profitable. Mais le deuxième élément qui me paraît tout aussi intéressant, c'est la construction par certaines entreprises, de manière tout aussi spontanée que le soft law de la RSE, de ce qu'on appelle un bilan sociétal. Et l'idée est ici de construire un système d'évaluation comparable à la RSE, mais qui s'en distingue en étant plus large, plus inclusif, et en prenant en considération les inductions implicites que peuvent apporter les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et c'est pour dire les choses de manière un petit peu caricaturale ou rapide, disons, c'est d'essayer de quantifier le non quantifiable et de redonner une valeur à, par exemple, le bénévolat, qui n'est pas valorisé autrement, et de montrer comment des entreprises peuvent participer à la création du tissu social. Et on a là, évidemment, on dépasse très largement le cadre réglementaire ou interne à l'entreprise qui est repris par la RSE. Le deuxième élément que je pensais, mais je vois que le temps tourne et je vais le zapper, que je pensais évoquer, c'était la question des commons. Mais merci beaucoup, je craignais que vous ne sonniez déjà la cloche. Ce n'est pas du tout un élément central comme celui que j'évoquais tout à l'heure à propos de l'exposé de ce matin qui évoquait les commons, donc je laisse de côté, mais on a un modèle dans l'entreprise de l'économie sociale et solidaire qui fait tout à fait écho aux questions des commons, notamment parce que les entreprises de l'économie sociale et solidaire se caractérisent par une propriété commune et qu'on y retrouve, et je retrouve mon patrimoine, on y retrouve les traits de toute la patrimonialisation qui peut exister, notamment en termes de développement durable et de relations intergénérationnelles, où on a là des ressources et des mécanismes techniques déjà bien approfondis. Mais je vais m'apesantir un peu plus sur les ressources que peuvent fournir les ressources intellectuelles cette fois, qui proviennent, disons, du fondement même de cette économie sociale et solidaire dans sa dimension alternative. En effet, les entreprises de l'économie sociale et solidaire se sont développées au XIXe siècle comme une alternative au modèle capitaliste qui se développait, puisque je ne vais pas dire se mettait en place, ça a commencé bien avant, De cette dimension alternative, même si elle a été largement battue en brèche depuis, il reste tout de même deux éléments centraux qui me semblent tout à fait importants. C'est d'un côté la question de la gouvernance et de l'autre la question des relations entre l'économique et le politique. En termes de gouvernance, bien sûr, on sait, comme le rappelait Marianne Frison-Roche, il y a tant de choses qu'on sait et qu'on ne sait pas vraiment. Une des caractéristiques qui est souvent mise en avant par les entreprises d'économie sociale et solidaire, c'est leur caractère démocratique, c'est-à-dire le principe une personne, une voix, qui évidemment les distingue des entreprises actionnariales dans lesquelles le pouvoir est lié à la détention du capital, en tout cas pour l'essentiel. Mais par-delà cette particularité qui peut paraître à la fois séduisante, mais qui peut aussi être assez formelle, on doit constater que ces entreprises d'économie sociale et solidaire ont une approche de l'entreprise qui rompt très largement avec les débats qui existent autour de l'entreprise, de la définition même de l'entreprise et de l'opposition qui a été maintes fois évoquée entre l'entreprise contrat et propriété et l'entreprise institution qui a nourri les débats depuis 50 ans. En effet, la question du pouvoir dans l'entreprise sociale et solidaire s'est organisée de manière tout à fait différente avec deux modalités distinctes selon les statuts de ces entreprises, soit en incluant au sein de l'entreprise tous ceux qui y sont d'habitude extérieurs et donc en résolvant la question de ce pouvoir par une intégration au sein de l'entreprise de personnes qui n'y sont normalement pas. C'est-à-dire que et c'est la définition classique des coopératives, les propriétaires de l'entreprise sont ses usagers. Et donc, évidemment, ça transforme radicalement l'entreprise elle-même, puisque eh bien, il n'y a plus de coupure entre ceux qui seraient censés retirer de l'argent de l'entreprise et ceux qui devraient bénéficier des services qu'elle propose. Alors, je ne développe pas faute de temps, mais cela entraîne, bien sûr, une gouvernance de l'entreprise complètement différente. Bien sûr, c'est tout à fait... ça n'est absolument pas parfait et, par exemple, toutes les coopératives, en dehors des coopératives ouvrières, ne font qu'une place trop restreinte aux salariés, par exemple. Mais on a là, en tout cas, un modèle qui permet de sortir de comment intégrer les stakeholders, les parties prenantes. Eh bien, ici, ils sont dedans. Deuxième hypothèse, c'est de concevoir une entreprise sans capital. Ça peut paraître un peu étrange, bien sûr, mais c'est pourtant, grosso modo, le cas pour partie des associations, mais de manière plus évidente encore pour les mutuelles, qui ne disposent pas de capital social. Et à partir du moment où il n'y a pas de capital social, eh bien, il est évident que la détention et l'exercice du pouvoir sont nécessairement déconnectés de la détention du capital. On a là, donc, me semble-t-il, deux hypothèses, deux mécanismes qui permettent de renouveler la réflexion sur le capital. Deuxième question, c'est la relation entre l'économique et le politique. Et de ce point de vue, c'est l'économie solidaire, apparue une trentaine d'années, qui a renouvelé l'ancienne économie sociale, je ne développe pas malheureusement. Cette économie solidaire a remis au premier plan cette question de la politique dans l'entreprise, la politique évidemment dans son sens organisation de la société, hein, dans son sens large, et c'est notamment en se basant sur les travaux de Karl Polanyi et la question de le réencastrement de l'économie dans la société, il y a sur cette base la contestation de ce que l'entreprise pourrait être une structure autonome qui se gérerait sur des considérations strictement économiques. Toute entreprise, principalement l'entreprise cruciale certainement, est porteuse d'une dimension politique. Et il y a en conséquence des mécanismes qui doivent permettre de prendre en charge les décisions qui ont une portée politique et qui regardent par conséquent l'ensemble de la communauté. On a donc ainsi des entreprises qui aujourd'hui vont marier différents acteurs, différents partenaires, et notamment les collectivités territoriales. Alors, ça pouvait être le cas dans des entreprises comme les associations. Ça s'est largement renouvelé avec notamment le modèle des sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC, qui ont presque structurellement des collectivités territoriales à leur capital. Et qui, du coup, réaffirme l'ancrage territorial de ces entreprises et, en conséquence, leur incorporation des questions économiques et politiques au sein d'une même entité. Le deuxième élément par lequel le droit de l'économie sociale et solidaire est susceptible de nourrir le droit de l'entreprise, c'est par les frictions qu'il entretient avec le droit des affaires de manière générale. À ce titre, il y a deux façons d'envisager cette friction. Tout d'abord, cette friction conduit à une redéfinition de l'entreprise sociale et solidaire elle-même, et d'autre part, eh bien, une interrogation qui est portée à des concepts ou à des mécanismes plutôt et des principes fondamentaux du droit des affaires. Tout d'abord, au titre de la redéfinition de l'entreprise sociale et solidaire, eh bien, c'est une redéfinition qui se déploie à la fois au plan national et au plan européen. Au plan national, c'est l'objet de la discussion qui est encore pendante devant le Parlement à propos de cette loi d'économie sociale et solidaire qui a été évoquée tout à l'heure. Et il est proposé de ne plus cantonner le secteur de l'économie sociale et solidaire aux entreprises statutairement définies comme c'était le cas jusqu'à présent. Les statuts traditionnels demeureront au sein de l'économie sociale et solidaire, mais il est proposé d'y ajouter toutes les sociétés, ou toute société plutôt commerciale, qui se soumettrait à un certain nombre de principes et qui, pour reprendre la formule jusqu'à présent retenue par le Parlement, aux entreprises qui, au terme de leur statut, remplissent les conditions suivantes. Tout d'abord, respect de la définition de l'économie sociale et solidaire, ce qui implique, grosso modo, puisque c'est ce que, enfin, des critères définis par la même loi, on retrouve d'un côté la gouvernance démocratique, ensuite l'impartageabilité de certaines réserves, ce patrimoine commun, propriété commune, et la dévolution désintéressée du boni de liquidation, qui est le fruit à la fois de ce patrimoine commun et du caractère semi-non lucratif de ces entreprises, de lucrativité limitée. Mais à ces critères liés à la définition, ces entreprises doivent encore avoir une recherche de l'utilité sociale, un prélèvement d'une fraction importante des bénéfices pour des réserves, l'interdiction du rachat des parts sociales. Et toute société commerciale qui se soumettrait à ces différents principes donc sera désormais une entreprise d'économie sociale. L'enjeu est théoriquement important puisque c'est de casser l'idée que c'est lié à un statut, la définition est liée à un statut juridique. Dans le même temps, je ne suis pas sûr qu'en pratique, ça aura des incidences fondamentales parce que le nombre de sociétés commerciales qui remplissent ces conditions et qui vont les revendiquer, surtout compte tenu des avantages qu'elles pourront en retirer, me semble quelque peu incertain, disons. Deuxième élément, et je crois qu'il me reste déjà très peu de temps. 5 minutes, je vous remercie beaucoup. Deuxième élément au plan européen, mais qui a des incidences en France extrêmement importantes, c'est l'émergence de ce que l'on appelle l'entreprise sociale. L'entreprise sociale qui est d'abord, qui est une notion totalement brouillée par son origine américaine, où l'entreprise sociale connaît diverses versions, mais pour l'essentiel constitue une entreprise capitaliste tout à fait traditionnelle qui, en revanche, est mise en place par des organisations philanthropiques pour faire de l'argent qu'elles attraient ensuite au bénéfice de leur activité. Et donc, c'est l'utilisation, finalement, des mécanismes capitalistes pour faire de l'argent pour le bien public, disons. La tradition européenne est assez différente, mais la signification, la portée de la tradition américaine fait craindre des dérives considérables et induit des débats internes au secteur tout à fait importants. La tradition européenne a été de d'insister sur l'objet social de l'entreprise sociale. C'est-à-dire que là où les entreprises de l'économie sociale et solidaire se définissaient plutôt par leur structure et leur mode de fonctionnement, l'entreprise sociale se définit davantage par son objet. Et cette définition, ce courant émergent a fait florès au niveau européen pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a semblé pouvoir servir de dénominateur commun entre l'économie sociale et solidaire de tradition, disons, latine, et le secteur philanthropique ou not-for-profit de la tradition anglo-saxonne. Et donc l'Union européenne, à travers différents textes, pas encore des textes directement de réglementation de cette entreprise sociale, mais par exemple à travers un projet de règlement sur un fonds européen pour l'entreprise sociale, définit ce que serait cette entreprise sociale, donc indirectement, et on y voit effectivement qu'elle insiste très largement sur l'objet de cette entreprise. L'autre élément qui, au sein du droit européen, peut se raccrocher à ce mouvement, c'est les services sociaux d'intérêt général, où on voit que, là encore, un statut particulier est reconnu, accordé aux entreprises, quelle qu'en soit leur nature, dès lors qu'elles remplissent une fonction particulière ou qu'elles ont un objet spécifique. Et le débat essentiel suscité par l'émergence de cette entreprise sociale est le risque que perçoivent les entreprises sociales et solidaires latines que le primat accordé à l'objet de l'entreprise fasse finalement passer au second plan sa structure, son fonctionnement, alors que pour elle, toutes les vertus émancipatrices de l'acteur dans l'entreprise conçu comme un citoyen au sein de l'entreprise, comme il peut être citoyen dans la cité, risque de passer par pertes et profits et de conduire finalement à une banalisation de cette entreprise d'économie sociale et solidaire. Et les plus critiques considèrent même que l'entreprise sociale est une façon pour l'entreprise capitaliste de polliniser à bon compte un secteur qui s'était manifesté rebelle. Je laisse de côté les frictions directes qui existent entre le droit des affaires, disons, et les entreprises d'économie sociale et solidaire, mais je mentionnerai simplement que c'est le droit de la concurrence, d'un côté, qui est directement interrogé, puisque les entreprises d'économie sociale et solidaire se fondent explicitement sur la coopération et se trouvent donc très souvent en but avec les règles qui imposent ou qui promeuvent la libre concurrence. Mais c'est également le cas du droit fiscal, puisque c'est toute la question du régime fiscal spécifique qui peut ou ne peut pas être accordé à des entreprises particulières. Et on retombe aussi indirectement sur la question de la concurrence. Tout à fait, je conclue. Alors, en conclusion, je dirais que j'ai délibérément laissé de côté toutes les interrogations liées à la réalité du secteur de l'économie sociale et solidaire qui est aujourd'hui très largement mixé avec les entreprises capitalistes pour me concentrer sur l'appareillage et l'outillage conceptuel qui, me semble-t-il, est suffisamment différent des entreprises classiques pour les interroger. Et il me semble que, j'en terminerai par là, La proposition qui était faite de redéfinir l'entreprise comme un commons me paraît, pour le coup, extrêmement voisin de ces entreprises d'économie sociale et solidaire. Et c'est tout à fait intéressant de voir que c'est précisément dans le monde anglo-saxon qui ne connaît pas ces entreprises d'économie sociale et solidaire qu'il est proposé redéfinir l'entreprise sur un modèle qui finalement s'apparente à cette tradition latine originale. Je vous remercie.